Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est toujours avec joie que je reçois Jean-Yves Brie. Il va évoquer pour nous un livre que j'ai personnellement beaucoup aimé, La passagère du silence de Fabienne Verdier. Jean-Yves Brie, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors sur le plan éditorial, on peut parler, disons, d'une grande aventure.
Oui, écoutez, j'ai eu la chance de vivre cette aventure chez Albin Michel. Et c'est un livre qui nous est arrivé. On s'est dit, bon, on va le tirer à 8-10 000 exemplaires. Et puis, les semaines passant, il est arrivé pratiquement à 200 000 exemplaires. Il y a eu un engouement formidable pour ce livre.
Ah oui.
Et ça a monté petit à petit. Et il était dans les listes des meilleures ventes, pratiquement à la première place des essais et documents.
Mais c'est un livre extraordinaire. Moi, quand je l'ai lu, j'ai dit vraiment, il faut qu'on en parle parce que c'est.
Pour moi, ça a été une époque marquante de ma vie d'éditeur.
Bien sûr. D'ailleurs, vous avez eu la chance de la connaître personnellement.
Ah oui, c'est une des personnes dans ma vie qui m'ont le plus impressionné, disons.
Oui, parce que c'est une femme qui sait beaucoup de choses, mais qui sait distiller aussi ce qu'elle dit.
Oui, c'est une femme qui a une grande classe et qui vous impressionne et qui, toute sa vie, quoi. Et on sent toute sa vie intériorisée, toute son expérience en Chine intériorisée.
Oui, sa philosophie.
Et oui, la philosophie qu'elle a acquis là-bas. Parce que son séjour en Chine dont on va parler, ces 10 ans qu'elle a passé en Chine, elle a vraiment recherché la culture ancienne et elle a cherché à côtoyer tous les lettrés chinois qui étaient d'une culture incroyable.
Et avec des difficultés qui semblent insurmontables.
Avec des difficultés pas possibles, puisqu'on sortait de la révolution culturelle. C'était très peu de temps après. Et c'était pratiquement impossible de rencontrer les vieux maîtres. Ils avaient été mis au banc de la société. Et elle a réussi à force. Elle avait une telle envie qu'elle a réussi.
Oui. Et alors, elle a réussi et en même temps, elle nous a fait connaître des personnages qui sont vraiment incroyables.
Oui, alors...
Personnage en Chine, là, c'est quelqu'un...
Son maître.
Son maître.
Oui.
On se dit que c'est un saint, c'est quelqu'un d'extraordinaire,
oui.
C'est-à-dire au-delà de l'ordinaire.
Ah oui. Mais peut-être, en deux mots, je voudrais un petit peu situer son parcours. C'est-à-dire
oui.
que... Bon, elle habitait en France, ses parents ont divorcé quand elle avait 7 ans, ça l'a beaucoup marqué. Ensuite, quand elle avait 17 ans, elle a rejoint son père, qui était un ancien de 68, et qui vivait du côté de Carcassonne, dans un grand domaine viticole, où il faisait tout lui-même. Et là, elle l'a rejoint, et elle a appris un petit peu à se débrouiller toute seule. Parce
oui.
que lui disait, ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller tout seul n'ont pas le droit de vivre. Donc, elle a appris la solitude, à se débrouiller toute seule, et à peindre, parce que son père peignait aussi.
Oui. Et on voit que, justement, les difficultés, elle arrive à surmonter tout avec
ah oui,
un courage, une intelligence.
Une force de caractère incroyable. Oui. Alors donc, elle est entrée à l'École des Beaux-Arts de Toulouse, et là, elle a trouvé que l'enseignement académique en France, dans les écoles des Beaux-Arts, ça ne valait rien, quoi.
Oui.
On était à l'époque où on disait « exprimez-vous, faites n'importe quoi, mais il faut s'exprimer ». On n'apprenait plus les techniques, à copier les maîtres anciens, etc. Donc, il n'y a qu'une seule chose qui lui a plu, c'était le cours de calligraphie.
Mm.
Et à travers le cours de calligraphie et à travers celui d'histoire de l'art, elle s'est dit « voilà, la calligraphie ». Elle a appris la calligraphie européenne, mais aussi la calligraphie chinoise. Et alors, c'est ça qui lui a plu. Et l'histoire de l'art chinois ancien,
c'est
ça qui lui a plu. Elle s'est dit, il faut que je parte, il faut que j'aille étudier en Chine pour apprendre les techniques des maîtres anciens.
Et l'autre personnage, c'est effectivement Maître Wang.
Oui. Alors, donc, elle arrive là-bas en Chine. Tout au fond de la Chine, hein, c'est le Sichuan,
oui.
Chongqing. Et donc là-bas, la révolution culturelle, c'était sérieux, hein, c'était le parti qui commandait.
Mm.
Et donc l'université des Beaux-Arts, c'était pratiquement une caserne. Hein. levée à 5h30 au son du clairon, levée du drapeau, etc. Et elle obtient d'avoir une chambre parce qu'elle n'est pas dans les dortoirs à 20 comme les autres étudiants.
Oui, parce qu'on voit aussi comment est la vie des Chinois.
Ah oui, c'est un document aussi.
C'est ça.
Bon, c'est le récit de sa vie, mais c'est un document ethnographique pratiquement sur la vie en Chine peu de temps après la révolution culturelle.
C'est ça.
C'est-à-dire la révolution culturelle, c'était 60-66, je crois. Elle arrive en 80. Et ça commençait un petit peu à s'ouvrir un petit peu.
Oui.
Mais pas tellement dans le fond de la Chine, là-bas où elle était, près du Tibet.
On se demande si c'est possible, enfin.
Ah oui, non, mais c'était incroyable.
Les conditions de vie
des étudiants, c'était fou.
Il fallait avoir vraiment envie d'apprendre.
D'ailleurs, elle est tombée malade à un moment.
Très malade.
Tellement la nourriture était mauvaise. Elle a eu une hépatite très grave, dont elle a les séquelles même actuellement, quoi. Elle raconte tout ça dans son livre. Et à force de persuasion, et parce que le directeur était quelqu'un d'ouvert, elle a réussi à le convaincre d'aller voir le vieux maître qui était relégué dans un petit cagibi au fin fond d'université, parce que la révolution culturelle avait déclaré que c'était la culture qu'il fallait complètement annihiler. Et ce vieux maître lui a appris la calligraphie, et en même temps, elle a découvert l'immense culture chinoise, ancienne, de philosophie, poésie. Parce qu'en Chine, un lettré, il est aussi bien philosophe, poète, calligraphe et peintre.
Oui.
Et musicien.
Que... Oui.
C'était un petit peu comme à la Renaissance chez nous, quoi. Oui. C'était un enseignement complet.
Oui, mais la calligraphie, enfin, j'ai déjà interviewé un calligraphe, c'est quand même, ça demande une certaine philosophie.
Ah oui,
il faut aller lentement, il faut réfléchir.
De toute façon, ce maître était taoïste et
c'est ça.
À travers la calligraphie et son enseignement,
c'est ça.
Elle apprend une sorte de sagesse taoïste, la lenteur, le fait de rester longtemps devant un paysage, de s'en imprégner, de faire un peu le vide en soi, etc. Quoi.
C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce qu'il nous apprend tellement à nous qui allons trop vite, c'est ça.
Et son enseignement est toujours fait de façon très subtile. C'est-à-dire, un jour, elle se révolte, elle dit « Mais finalement, j'y comprends rien à la calligraphie chinoise. » Il lui dit « Mais bravo !» Tu es sur la voie. Tu vas comprendre. Ta révolte est normale. Et c'est une étape dans mon enseignement.
D'ailleurs, on le voit bien quand nous-mêmes nous apprenons et puis à un moment on dit oh non, c'est pas possible, j'y arriverai pas.
Oui.
On reprend. Et là, c'est beaucoup plus simple aussi.
Oui, exactement.
Et on a l'impression qu'elle a tout le temps cheminé comme ça.
Et en même temps, elle apprend aussi l'humour parce que ce vieux maître est plein d'humour. Et même elle avait apporté dans son voyage en Chine un livre qui était un traité de la peinture chinoise rédigé par Citrouille Amère. Parce que ce Chinois, il s'était donné un surnom. Parce que dans les sceaux qu'on voit sur les tableaux, c'est toujours ce surnom qui est peint d'une certaine façon. Et lui, c'était Citrouille Amère. Et elle s'était trouvé aussi des surnoms pour ses sceaux. Je ne sais plus les noms, mais c'était très, très amusant. Elle s'était prénommée Tigresse enragée ou Lignard devant l'Éternel.
Oui. Alors peut-être aussi le rite. Parce que ça, le rite, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Oui. D'ailleurs, ça m'a frappé parce que je l'avais invité un jour à parler de son livre devant une association de gens très, très cultivés. Elle m'a dit « Bon, j'accepte une fois, mais ça sera la seule fois, parce que le rite de me remettre dans mon travail de peintre, ça me prend plusieurs jours. Donc, si je viens vous parler, j'en serais ravi, mais ça me casse dans mon travail. » Et le rite qu'elle apprend avec ce maître Wang, c'est vraiment de préparer les pinceaux, de se mettre dans les conditions, et c'est toute une philosophie en même temps. Et les pinceaux, alors il y a les pinceaux en barbe de rat pour faire une certain type de peinture, il y a les pinceaux en poil de renard, en poil de chèvre, en poil de martre, Il y a le poinçon en duvet de coque pour faire les nuages dans le tableau.
Ouais,
enfin,
c'est
un savoir incroyable qui était en train de se perdre.
Oui.
Et un peu grâce à elle, même à l'université, là-bas, ils ont un peu réhabilité tout ce savoir ancien qu'on avait bazardé. Parce qu'à l'université de Chongqing,
oui,
on apprenait que la peinture à l'huile et qui exaltait les valeurs socialistes.
Oui.
Alors on voit le réalisme socialiste, quoi, ce que ça donne comme peinture.
Là, on peut presque parler de la magie taoïste.
Ah oui, 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 oui. La subtilité de...
C'est ça.
La subtilité de cet enseignement et de ce savoir.
Et sa longueur, quoi, 10 ans.
Alors oui, le maître, d'abord elle arrive chez le maître, elle lui dit, maître... Il dit, il n'y a pas de maître, moi, depuis la révolution culturelle, je ne suis plus maître, je ne suis rien. Et il lui dit, moi, je veux bien accepter de vous enseigner la calligraphie, mais c'est 10 ans ou rien. Et dans l'instant, elle dit, OK.
Alors que nous, on serait friés.
Elle avait 20 ans. Hein.
Mais oui, c'est
donc
ça.
Donc c'est 20 à 30 ans, et c'est ce qu'elle a fait.
Oui.
Elle a passé 10 ans en Chine à apprendre... La civilisation, parce qu'il lui dit, bon, c'est pas seulement la calligraphie, c'est pas seulement la peinture, c'est la civilisation, c'est l'attitude devant un paysage, c'est le taoïsme, c'est-à-dire se fondre dans le paysage qu'on regarde, quoi. Mm. C'est se faire un vide intérieur de ses pensées parasites.
Un peu la vie ou d'un philosophe ou d'un saint.
Oui. Ah oui, c'est un sacerdoce.
C'est
un vrai sacerdoce.
Exactement.
Elle le dit d'ailleurs à un moment
oui.
dans le livre. Je me lance dans ce sacerdoce. Quoi.
Mais il y a 20 ans, c'est...
Ah oui, mais c'était sa passion. Elle était passionnée par ça. Et en même temps, elle n'avait rien à faire de devenir une artiste pour gagner de l'argent.
Non, non, non.
C'était sa
intérieure.
Recherche. Et arriver à exprimer sa recherche intérieure à travers la toile et la technique que lui ont appris ses maîtres chinois. D'ailleurs, ce maître, il lui dit, mais de toute façon... Il faut d'abord que vous alliez chez un autre maître qui est celui
oui.
qui est le tailleur de pierre, le tailleur de sceaux. Et elle arrive chez lui et elle se rend compte qu'il n'avait qu'une main. Les gardes rouges de la révolution culturelle lui avaient coupé une main pour qu'il puisse plus faire son travail. Alors c'est incroyable. Et ce maître continuait à graver ses sceaux.
Mais... Ce qu'on voit chez ces gens, c'est en fait, vous disiez sacerdoce, mais je crois que c'est vraiment le terme qui convient, parce que nous, on a du mal, Européens, à imaginer ça. Une vie, 10 ans déjà, consacrée à apprendre à faire des traits.
Ah oui, oui. Pendant plusieurs mois, elle n'a fait que des traits horizontaux.
C'est ça.
Il fallait maîtriser le trait. D'ailleurs, son enseignement s'appelle l'unique trait de pinceau. Elle a fait un album qui s'appelle l'unique trait de pinceau. Et elle arrive petit à petit à maîtriser cette calligraphie, à devenir une grande calligraphe, hein, si bien qu'elle est acceptée dans l'association des calligraphes chinois.
Oui.
Et elle fait des expositions en Chine qui ont beaucoup de succès et qui sont reconnues par ses pairs.
Hein. On peut parler d'un monde de poésie et d'humour aussi.
Ah oui, il y a beaucoup d'humour parce que, comme je disais, la signature des sceaux, c'est toujours
ça.
Très drôle. Citrouille amère, c'est très drôle.
Oui.
Et puis, dans les tableaux, vous voyez quelquefois... Dans un tableau d'un magnifique paysage, un petit Chinois qui est comme écrasé par la nature. Quoi.
Eh bien, je crois, chers auditeurs, que vous aurez très envie de lire ce livre de Fabienne Verdier. D'ailleurs, d'autres livres aussi de Fabienne Verdier. C'est un des auteurs que, je crois que vous l'avez compris, nous aimons beaucoup l'un et l'autre. Merci beaucoup, Jean-Yves Brie. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocranciel.fr. Merci Jean-Yves Pouy.
Merci.